Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Orales, le podcast qui s'intéresse aux secrets d'éloquence de professionnels à Bordeaux et parfois au-delà. Chaque mois, je pars à la rencontre d'orateurs et oratrices du quotidien en quête d'anecdotes insolites, d'outils pratiques et d'une bonne dose d'inspiration pour vous faire aimer prendre la parole en public. Comment envisager l'expression que l'on soit à la barre d'un tribunal, face à ses équipes ou devant un parterre d'inconnus ? Je suis David Jadar, formateur en prise de parole et entrepreneur. J'aide chaque année plusieurs centaines de professionnels à gérer leur trac et à s'exprimer de façon percutante en présentation. Installez-vous bien confortablement dans votre fauteuil et bonne écoute. À la rencontre de Morgane Mauric. Chef des ventes, elle nous partage son quotidien de négociatrice et d'animatrice commerciale pour une grande entreprise d'outillage professionnel. Comment manager et persuader dans des environnements majoritairement masculins ? Comment continuer de croire en soi dans la routine commerciale et professionnelle ?
Je m'appelle Morgane Mauric, donc j'ai 34 ans. J'ai commencé par un bac ES qui n'existe plus. J'ai fait un BTS profession immobilière. J'y ai passé trois belles années, et changé de région. Donc j'ai atterri dans du photovoltaïque, donc dans de la vente en B2C. Pareil, je passe, je crois, trois bonnes années une nouvelle fois. Et puis, de fil en aiguille, j'ai atterri très rapidement parce que la partie technique du bâtiment m'a attirée. Et donc, j'ai atterri dans de la vente B2B cette fois-ci et dans le milieu de la visserie essentiellement. Enfin, vente de consommables spécialisée pour le VL, donc tout ce qui est garage, concession automobile, carrosserie, vélociste, motociste. Et donc, chez la société Wurth. Je vous la fais un peu plus courte, mais c'est ça. Et donc, ça fait 10 ans désormais que je suis dans cette société, poste de conseillère commerciale et chef de vente depuis 2 ans. Voilà.
Très bien. Alors, ce qui m'intéresse avec toi aujourd'hui, Morgane, c'est d'interroger un petit peu ton rapport à la parole dans ton métier de négociatrice, de chef des ventes et d'accompagnatrice commerciale au quotidien. Une question me taraude. Comment t'en es venue à vendre de l'outillage pour des professionnels ? Comment t'as réussi à faire ce grand écart de l'immobilier à l'outillage ?
Déjà, dans l'immobilier, on a de la formation dans ce BTS qui est du bâtiment, donc on va sur des chantiers. Déjà, j'étais attirée par la partie comment une maison est construite, donc par les matériaux, par comment appliquent les artisans, ce qu'ils utilisent, etc. Même si, effectivement, on ne part pas trop dans le technique quand on vend un bien immobilier, puisqu'on a face à nous des particuliers. Et ensuite, dans le photovoltaïque, puisque ça avait le vent en poupe à cette époque, donc il y avait beaucoup d'offres d'emploi. C'est pour ça que j'ai atterri dans ce milieu-là. À la base, c'est que je cherchais un nouveau poste, et donc il y avait beaucoup d'offres dans ce milieu-là. Et là, pareil, à nouveau, je suis amenée sur des chantiers, et j'étais très intéressée. J'ai été curieuse de voir comment on posait, comment ils faisaient sur la toiture. Et j'ai été avec les artisans, avec des couvreurs-zingueurs, des charpentiers, et donc les électriciens. Et j'ai voulu faire. Ça a confirmé qu'effectivement, cette partie technique m'attirait beaucoup.
Et forcément, il y a une question qui me vient. Faut-il être passionné au départ par son produit pour bien le vendre ?
Alors, je pense que ça dépend des personnes. Moi, je fais partie des personnes où j'aime vendre un produit dans lequel je crois. Parce que quand on en parle avec passion, tout en sans partir dans des grands débats, effectivement, parce qu'on doit quand même alléger un petit peu le client en face, mais moi, je suis ainsi, c'est que je pense, oui, qu'on a besoin de croire en ce produit pour le vendre. On le vendra bien mieux quand on y croit et quand on est passionné, oui.
Et comment tu as fait au début sur le marché du travail, tu te lançais pour te passionner par ce produit-là ? Parce qu'entre nous, j'imagine que tu n'avais pas une passion pour la vis la vis où je caricature, évidemment, oui. Hein, sans faire offense à Wurth et à ses beaux métiers. Mais comment tu as fait
Ça passe par beaucoup de curiosité, beaucoup d'intérêt auprès des clients eux-mêmes, en fait.
D'accord.
C'est eux qui m'ont transmis, d'ailleurs, davantage cette partie technique, comment ils procédaient. Donc, c'est poser beaucoup de questions, observer. Et c'est eux qui m'ont appris et qui m'ont transmis leur passion aussi, du coup.
Est-ce que c'est finalement l'interaction avec le client, peut-être des fois certaines objections, qui t'ont stimulé aussi dans la recherche d'en savoir plus sur le produit, d'être plus pertinente sur les services, les produits que tu proposais.
Oui, bien sûr.
Ces allers-retours-là. Oui. Très bien. Et est-ce que maintenant, tu pourrais développer sur ton métier de chef des ventes pour quelqu'un qui nous écoute et qui ne sait pas concrètement ce qu'est un ou une chef des ventes? En quoi consiste ton quotidien?
Donc, mon quotidien, j'ai une équipe de 9 conseillers commerciaux qui sont répartis sur plusieurs départements et qui, effectivement, sont des conseillers, on ne fait que du B2B, encore une fois spécialisés dans l'automobile, dans le VL. Je les pilote, donc je fédère cette équipe-là pour qu'ils travaillent ensemble. Je les coach aussi individuellement au quotidien, je les accompagne en clientèle. Bon, certains ont déjà beaucoup d'expérience, mais pour les nouveaux, ça va être aussi de montrer petit à petit, de laisser, de faire, pour qu'ils montent en autonomie. Ça va être développé aussi pour eux des nouvelles, c'est les faire monter tout simplement en compétences aussi, et puis les amener à la réussite. Donc je suis aussi une facilitatrice, pas facile à dire, du quotidien, en tout cas j'essaie pour eux.
Et à travers ce terme de facilitatrice, et tu parles de terrain, je t'imagine à être régulièrement au contact des négociations et des négociateurs. Comment tu les accompagnes sur le terrain? Parce que j'imagine qu'il y a ce jeu habile, on est un peu sur un fil, il faut être là tout en étant assez discrète. Comment on coach un commercial sur le terrain?
Alors, il y a la partie préparation avant d'aller chez le client. Qu'est-ce qu'il a préparé? Quel objectif il s'est fixé? Qui il est? Pourquoi on va le voir? Ensuite, en face à face, ça dépend de mes conseillers commerciaux. Ça dépend de leur expérience. Il y en a certains, quand ils débutent, bien évidemment, tout au début, j'ai tendance à prendre la main parce qu'ils ont ce besoin d'abord d'être observateur. Ensuite, j'inverse le rôle, c'est-à-dire que petit à petit, je leur laisse la main. Pour ceux qui ont le plus d'expérience, à l'inverse, je me mets en retrait et j'observe. J'interviens si je sens qu'il a besoin d'aide, mais je m'intéresse toujours au client, bien évidemment. Mais sur la partie vente, je laisse mon conseiller commercial faire, bien sûr. Et après, il y a des briefs une fois sorti de clientèle.
Et tu parlais de préparation d'entretien. Mmh. Comment, quand on est jeune commercial, on prépare un entretien de vente?
Alors, idéalement, c'est déjà savoir où on va. Qui on voit au sein de cette société-là, si c'est la première fois qu'on le voit, bon déjà de saisir le circuit décisionnel de l'entreprise, donc qui on a besoin de voir, et puis préparer un minimum un objectif de visite, pourquoi on va le voir, et c'est un minimum de préparation. Ouais.
Quand tu dis le circuit décisionnel, c'est-à-dire concrètement, c'est qui ça. Va prendre la décision, qui va essayer de convaincre qui?
Après, plus loin que ça, après, qui sont les influenceurs?
Qui sont les influenceurs?
Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément sur le papier le pouvoir, mais qui pour autant en ont, mais pas officiellement.
D'accord. Donc prendre la peine de pouvoir toucher au cœur du décideur dans l'entreprise. Quels sont les moments de prise de parole que tu préfères dans ton activité?
Alors j'aime prendre la parole face à mes équipes quand ils sont tous en face de moi. Plaisir à leur faire partager, ça peut être une nouvelle, ça peut être un nouveau produit, ça peut être peu importe le sujet. J'aime m'adresser à quand ils sont tous ensemble face à moi. Je prends plaisir à ça. Et j'aime encore beaucoup le contact client et prendre la parole en clientèle. Donc j'ai plaisir quand ils me laissent la main en face à face à des clients. J'aime partager, ouais, j'aime parler avec les clients encore beaucoup.
Donc j'entends qu'il y a une double articulation dans ton quotidien. Tu aimes bien ces temps où tu es face publique, mm-hmm. et puis ces temps plus en individuel. J'imagine que ça n'a pas toujours été forcément simple de prendre la parole en public au début. J'ai envie de t'écouter à ce sujet-là. Est-ce qu'il y a eu une évolution en ce sens dans ta prise de parole en réunion face à tes équipes, par exemple?
Alors, j'ai eu la chance d'être formée chez Wurt, puisqu'on a un centre de formation où on nous apprend au départ, donc c'est step by step, à déjà animer un thème en réunion. Donc, j'étais pas encore chef de vente, qu'on m'a proposé d'animer un thème, un projet que je monte de A à Z et que je présente face à mes collègues. Donc, finalement, c'était un premier exercice. J'ai pas eu d'appréhension parce que je connais mon équipe déjà, donc j'avais pas plus d'appréhension que ça. Et puis après, j'avais une certaine confiance en moi aussi, donc j'ai pas eu trop de difficultés par rapport à ça. Et après, je reste face à 10 personnes, donc j'ai pas encore mené une conférence face à 100 personnes. Là, peut-être que ce sera différent.
Ouais. Ouais, alors pour certaines personnes, ça peut être très très intimidant. Si je me fie parfois à des retours que j'ai avec certains prospects ou clients. D'ailleurs, il me vient une question. Est-ce que tu vois d'excellents commerciaux? parfois dans tes équipes. Alors là, on ne va pas viser ton équipe actuelle, évidemment, mais peut-être en remontant plus loin dans ton parcours, as-tu déjà vu d'excellents commerciaux être de moins bons orateurs en réunion ou en prise de parole en public, en présentation par exemple?
Ça a pu m'arriver, mais parce qu'effectivement, le stress de peut-être du regard de l'autre sur soi, quand on est face à tout un public, on se dit qu'est-ce qu'ils vont dire de moi. Moi, je n'accorde pas trop d'importance à ça, mais je l'ai déjà vu, effectivement. Mais parce que, encore une fois, ça fait 10 ans que je suis dans un domaine où on est sur de la fidélisation client. Donc on voit nos clients tous les 15 jours, donc il y a un vrai relationnel, donc il y a une aisance. Alors que quand on prend la parole derrière à une équipe ou un public, même si on les connaît un peu, il peut y avoir ce stress-là du regard des autres.
J'entends que chez Wurt, il y a un souci de l'accompagnement, notamment pour la prise de parole en réunion, ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines entreprises. Mmh. Toi, maintenant, à titre personnel, pour avoir fait un peu de management, ce n'est pas tous les jours simple. Mmh. Comment tu vas essayer d'obtenir des résultats avec ton équipe très concrets en fin de réunion? C'est souvent une problématique. Quand on me sollicite, par exemple, pour des formations sur comment animer une réunion, mm-hmm. Quelles sont tes clés, tes techniques? Comment tu les amènes avec toi?
Déjà, c'est de mettre très peu de focus. Il faut qu'effectivement, aujourd'hui, dans une entreprise comme Wurt et dans beaucoup d'autres ou des grosses structures, on a énormément de sujets et de focus au quotidien. Notre rôle à nous, de manager, en tout cas, moi, je le prends comme ça, c'est que derrière, je trie et je vois ce qui est le plus important et qui va animer, où je sais que ça va impacter mon équipe parce que derrière, il va y avoir une répercussion sur leur salaire, sur donc l'atteinte à leurs objectifs, etc. Donc là, je sais que je vais être percutante. Donc dans ma réunion, il va y avoir toujours du produit, par exemple, parce que je sais qu'ils aiment ça, je sais qu'ils aiment présenter des nouveaux produits et être techniques. Je vais faire toujours une partie atelier, échange avec eux, mais quand je dis atelier, c'est-à-dire que je vais faire venir un produit, pourquoi pas avec un formateur, et on va tester et on va en parler, caractéristiques, avantages, bénéfices du produit. Ça, c'est quelque chose qui, je sais qu'il plaît, et donc je le fais. Je vais construire toujours ma réunion de façon, il y a une rétrospective sur ce qui a été réalisé le mois passé, par exemple, féliciter les personnes qui ont été en réussite. Je les mets en avant, c'est aussi leur retour, comment ils ont réussi, pourquoi à leur avis ils ont réussi, pour pouvoir partager avec les autres. Donc il y a cette partie produit toujours, quand il y a une nouveauté, enfin voilà, j'essaie de choisir un ou deux focus, voire trois grands maximum sur ma réunion. Et beaucoup de participatifs bien sûr.
Oui, c'est ça, c'est que la réussite de ta réunion tient beaucoup des objectifs que tu t'es fixés avant. Et en ça, ça rejoint un peu la préparation d'une négociation. Hein. C'est là où il y a un vrai parallèle. Et donc j'entends à la fois un côté expérientiel, où tu vas faire venir du produit, tu vas faire vivre une expérience pendant la réunion à tes équipes. Et aussi, ce qui est hyper intéressant, c'est la valorisation, sans dénigrer les autres, mais la valorisation de certains éléments pour, j'imagine, créer une émulation avec les autres. Inciter tout le monde à se mettre dans la même énergie, la même roue.
Oui.
Pour en revenir sur la négociation, tu aurais un souvenir, une anecdote de négociation qui t'a particulièrement marqué et nous dire pourquoi.
Alors, ce sera pas sur de la vente en one shot parce que voilà, on en fait, mais c'est pas, on est encore une fois sur de la fidélisation client. J'ai beaucoup aimé un jour, j'arrive chez un prospect. Et donc un prospect, donc je ne travaille absolument pas avec, donc c'est une nouvelle concession qui s'installe. Donc je me présente en tant que voilà, conseillère commerciale du secteur, société Wurt, et là on me dit « Wurt, jamais ». Et donc là, j'ai souri et je l'ai pris sous le ton de la rigolade. Bon, la personne était relativement jeune, enfin je sentais qu'on avait à peu près le même âge et que voilà, ça, c'était aussi peut-être plus facile. Mais j'ai dit d'accord, donc j'entends, je creuse quand même un petit peu, pourquoi, et d'accord, qu'est-ce que vous attendez de vos fournisseurs, les questions classiques que l'on peut poser, mais je m'arrête là, je rentre pas, je déballe rien, juste deux petites questions, trois, et voilà, je dis écoutez, si vous me permettrez, j'insisterai quand même, je repasserai, il me dit mais ça sert à rien, je repasserai quand même, de toute façon je passe devant, donc... voilà. Et je suis passée une fois, deux fois, trois fois. Il m'a commencé à m'offrir un café, à discuter, on parlait autre chose. Je sortais jamais pour l'instant, enfin voilà, de produits. De temps en temps, je piquais un petit peu. Je dis bah ça pour information. Voilà, on fait. Qu'est-ce que vous avez? Je m'intéressais toujours à ce qu'il y avait dans l'atelier et qu'il faisait. Et en fait, en l'espace d'un an, ce client qui m'avait dit jamais est devenu mon plus gros client quasiment.
Donc finalement, t'es partie de la sympathie, de l'humour, même si tu dis que vos âges proches pouvaient aider.
Moi, je pense, oui. Ouais.
Pouvait aider, mais quand même, c'est assez habile. T'es pas rentré dans des contre-objections, dans de la justification, mais tu l'as écouté déverser. Mm-hmm. Tu l'as laissé déverser. On t'a dit jamais au grand jamais. T'as fait preuve de patience. Mm-hmm. Et au final, t'as réussi à revenir et à lui vendre quelque chose.
Oui, parce que je pense qu'il faut se montrer patient et que parfois, il faut savoir ne pas vendre, en fait. Mmh. Et ce qui est la plus grande difficulté d'un conseiller commercial, voilà, surtout ceux qu'on fait du one-shot, c'est difficile de ne pas vendre.
Alors, je trouve cette formule absolument géniale. Il faut savoir ne pas vendre parfois. Mmh. On a tout un tas de clichés sur le commercial et sur la vente. Mmh. Le côté marchand de tapis. Je me souviens, je ne suis pas très vieux, je vais avoir 35 ans, mais je me souviens quand même des vendeurs en porte-à-porte. On a une méfiance vis-à-vis un petit peu des métiers de la vente. Si on devait démonter ensemble un cliché sur ces métiers de la vente, de la négociation, quel cliché t'aurais envie de un petit peu de démonter là, maintenant, tout de suite?
Bah le cliché que le conseiller, enfin un commercial est un voleur, enfin ou en tout cas est un requin. Il y a beaucoup cette image-là du commercial que c'est un requin qui pourrait vendre sa grand-mère. On entend souvent ça. Pour moi, surtout dans le B2B, ça marche pas. Encore une fois, on est sur de la fidélisation client, particulièrement donc chez Wurt. Hein. Donc si on escroque une fois une personne, on peut pas y retourner. Donc on se grille. Donc il y a aucun intérêt. L'intérêt, il est vraiment focusé sur la satisfaction de nos clients. Et de là, à partir du moment où on fait bien le travail, pas de soucis, quoi.
Et pour des profils qui pourraient sembler peut-être très, très propres sur eux, à bien parler, et qui pourraient peut-être engendrer une forme de méfiance chez le prospect, comment tu fais tomber la méfiance? Comment tu consolides une relation de confiance quand il y a des a priori au départ?
Ben, je pense que par le questionnement, quand on montre qu'on a un véritable intérêt pour cette personne-là, de savoir ce qu'elle fait dans la vie, comment elle travaille, donc je parle de son entreprise, hein, qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs chantiers, qu'est-ce qui les anime au quotidien dans leur job, je pense que quand on est honnête, ça se voit, en fait. Donc, après, peut-être que ce n'est pas au premier rendez-vous, c'est qu'il faudra un deuxième passage, un troisième passage, donc encore une fois... Patience et longueur de temps.
Ouais, donc il y a plein d'enseignements dans ce que tu dis. Il y a un travail de patience. J'aime beaucoup cette formule. Parfois, il faut savoir ne pas vendre. Finalement, c'est une relation de confiance qui se construit beaucoup avec un art du questionnement. Cet art un peu de la maïeutique. Et j'imagine qu'après, il y a un travail de reformulation, beaucoup.
On reformule pour être bien sûr qu'on ait cerné effectivement cette problématique-là. Et c'est là où nous, on est apporteur de solutions derrière. Oui. Que ce soit en termes de produits, de services. Mmh. Donc, oui. C'est plus facile pour nous de rebondir, forcément, en tant que vendeur derrière.
Toi, Morgane, jeune commerciale qui arrive sur le marché du travail, quels conseils t'aurais aimé recevoir à l'époque? Est-ce qu'il y a eu des déclics, des phrases, des mentors?
J'ai eu la chance, effectivement, jusqu'ici, que ce soit dans l'immobilier ou chez Wurt, d'avoir des très bons managers et des formations internes à ces entreprises-là, qui m'ont beaucoup apporté et qui me servent encore aujourd'hui et que je partage et que je transmets à mes équipes. C'est encore une fois beaucoup de préparation. On a des trames qui sont un peu toutes faites chez nous, mais effectivement, elles ont fait leurs preuves. Après, il faut se les approprier, mais comme dans toute entreprise, on se dit « ouais, mais c'est du par cœur ». On ne donne pas du par cœur, on donne juste une trame, donc des outils. Et ces outils-là, quand on s'en sert, effectivement, on se rend vite compte que c'est efficace.
Quand tu es arrivé sur le marché du travail, est-ce qu'il t'a manqué peut-être une compétence ou un savoir-être? Et par conséquent, est-ce que celle-ci fait partie de ce que tu recherches pour recruter un commercial?
Alors, j'ai pu, pas au début, plus une période où parfois on peut être en dents de scie au niveau du moral. Et donc, ce que je cherche, c'est que des personnes qui sont relativement enthousiastes, en fait, qui arrivent à prendre du plaisir dans ce qu'ils font et qui sont souriants, mais sincèrement souriants, en fait. Parce que ça se transmet, parce que ça se ressent, et que derrière, on va chercher le positif quand on est face à des clients qui peuvent, eux aussi, être dans le creux de la vague. Et on peut prendre plaisir à remonter le moral de quelqu'un et de rester dynamique.
Parmi les savoir-être qui sont vraiment importants pour les commerciaux, il y a notamment être sincèrement souriant.
Oui, oui.
C'est des métiers de marathoniens. Comment on entretient son moral dans la routine commerciale? À tout métier, il y a une routine.
Oui.
D'aller prospecter, d'aller négocier, ça peut être usant.
C'est varié. Comment on s'entretient? Il faut le varier. Je pense que quand ça ne va pas, il faut l'accepter, parce qu'il faut accepter l'émotion qui arrive ou on n'est pas dedans. Donc ça ne sert à rien de se battre, hein, quitte à rentrer, faire de l'administratif et s'organiser pour le lendemain. Mais il faut varier, en fait. Si, par exemple, on a pris plusieurs portes sur du prospect, on va avoir un bon vieux client avec qui on s'entend bien, on va prendre un café, et puis on repart sur autre chose. Il faut s'organiser et accepter que parfois, ça n'aille pas, mais il faut trouver un petit peu la raison. Mais rapidement, effectivement, il faut repartir. Ouais.
Un peu comme une playlist en fonction de son humeur, qu'est-ce qu'on a envie d'écouter, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Choix d'ailleurs entrepreneur, où la compétence commerciale est fondamentale pour aller prospecter, chercher mes premiers clients. Entrepreneur ou commercial, voilà, à un moment donné, j'en ai ras-le-bol, peut-être de me prendre des portes ou des murs parce que les gens sont pas dispo ou parce que c'est mon cinquième nom de la semaine. Ton conseil, c'est donc d'entretenir un peu le moral et la forme en acceptant que ça ira peut-être mieux demain.
Partager, communiquer, parler avec son manager, parler aussi avec ses collègues, sans que ça tombe non plus dans cette mouvance ou autour de la machine à café où ça va pas du tout, mais jamais, mais puis il y a ça qui va pas, puis il y a ça qui va pas tomber là-dedans non plus, mais peut-être que d'autres, au contraire, tout va bien pour eux, ils sont bien, donc ils ont peut-être des choses à partager qui vont nous aider.
Il me vient un souvenir de lecture, je crois que c'est un livre qui s'appelle Convainquez qui vous voudrez, de Dan Pink. Il indique en fait, selon plusieurs études américaines, on a démontré que l'efficacité commerciale était souvent liée à la certitude que nos problématiques, que nos difficultés ne sont pas durables. En fait, il y a un petit peu deux types de commerciaux, si je caricature. Il y a celui qui va se laisser abattre et qui va penser que ça va être dur pour toujours. Et il y a celui qui, au contraire, va penser que c'est temporaire, que ça n'est pas personnel, que ça n'est pas lié à lui. Et qui va vite se remettre en selle. Est-ce que tu as envie de témoigner là-dessus? Est-ce que ça te parle ou c'est complètement déconnecté de ta réalité?
Non, ça me parle et c'est complètement ça d'ailleurs. Et ça me fait faire un parallèle même au sport où on a eu un coach mental pour préparer les championnats de France quand j'avais 18 ans en handball et qui nous disait quand on rate, quand on est en échec sur on shoot et on rate, toute l'équipe doit nous dire et on se dit c'est pas grave, on revient en défense, on replie et next, et on oublie. Il n'y a pas à dire bon j'ai raté, pourquoi j'ai raté d'ailleurs, et on est dans le match en fait, donc c'est pas grave, c'est raté, et c'est un peu le même principe en fait, il faut savoir quand ça va pas, se dire bon ça va pas, d'accord, mais quelles sont les solutions derrière, et se dire qu'effectivement c'est pas durable, et je pense même qu'on peut se persuader que les choses vont bien, que cette problématique là c'est juste un obstacle à franchir, et que ça peut ne pas être un obstacle.
Ouais, donc finalement, l'ennemi du commercial, c'est un petit peu
C'est lui-même.
C'est lui-même, bien dit. Deuxième formule que je trouve plutôt marquante pour ce podcast. Le pire ennemi du commercial, c'est lui-même. Et c'est de vivre un peu avec son historique, d'entretenir un historique éventuellement ça sert à rien, quoi. L'historique de la lose. J'ai raté hier, j'ai raté avant-hier, je raterai pour toujours. Surtout pas s'éviter les rétroviseurs, en fait.
Oui. Ouais.
J'imagine les utiliser à bon escient. Il faut quand même parfois...
Oui, parce que c'est important. Les erreurs, on dit toujours que les erreurs et le doute font partie de toute façon de la réussite. Et donc, il faut bien évidemment accepter tout ça. Mais il faut être positif et se persuader que tout va bien, on avance. Même si, effectivement, tout ne va pas bien, on sait qu'il y a des problématiques. Mais dans l'ensemble, ça reste un travail. Il faut aussi savoir relativiser et garder le sourire.
T'as parlé de handball, il paraît que Claude Onesta, type le champion médaillé avec l'équipe de France de handball, il paraît que quand il venait de tout gagner, il avait tendance à rebooster ses équipes en leur faisant passer le message que tout restait à faire. Comment toi tu manages ton équipe quand les indicateurs sont au vert et que tout va bien? Parce que c'est notre difficulté. Comment on entretient la flamme même quand ça va à peu près bien?
Après, on rentre dans du pilotage de précision, en fait. Il y a toujours des choses, des axes d'amélioration qu'on peut trouver et des choses qu'un vendeur chez nous ne travaille pas, sur lequel parce qu'il ne se sent pas à l'aise et où nous, on peut apporter de la formation et donc encore monter en compétence. On peut monter en compétence en permanence, en fait, ça ne s'arrête jamais. Après, encore faut-il que la personne le veuille, mais il y a toujours des choses que l'on peut travailler.
La douleur du commercial que tu accompagnes au quotidien, la douleur la plus récurrente ou une souffrance inhérente au métier?
C'est quand on est face à des personnalités qui nous sont complètement opposées. Que ce soit d'un point de vue opinion, vision des choses, du monde, un savoir-être qui est très loin d'une autre. Puisqu'on doit s'adapter, on doit l'accepter, on doit avancer avec ces personnes-là, on ne peut pas les éviter. Donc, il faut faire avec et ce n'est pas toujours évident.
comment travailler avec l'injustice, parfois avec des gens qui sont pas forcément, quand on peut avoir le sentiment d'injustice, pourquoi cette personne pense pas comme moi, pourquoi un tel décalage, c'est ça?
Alors le pourquoi non, mais c'est moi m'adapter, comment je vais travailler avec cette personne-là, sachant qu'on n'a pas la même vision des choses de manière générale, hein, dans les grandes lignes. Donc c'est pas de l'injustice, c'est plus des gens qui peuvent être extrêmement pessimistes, qui peuvent être extrêmement râleurs, qui peuvent être montés dans des puissances de colère et aller chercher le conflit en permanence, tout ce que je ne suis pas, et je n'aime pas le conflit. Donc et parfois on me laisse pas le choix de rentrer là-dedans. Donc oui, je suis pas dans mon confort là.
Est-ce que tu as un outil managérial qui t'a aidé? J'en ai découvert un à une époque qui s'appelle ProcessCom. Je ne sais pas si tu connais ou si tu en as un autre.
On nous a surtout formés sur comment, sur la partie plutôt théorique et on va dire comment animer justement une réunion, comment mener nos entretiens individuels, quels sont les différents entretiens individuels, donc la partie, les EAD, donc les contrats qui sont mensuels, les autres qui sont annuels, obligatoires, etc. Cette partie un petit peu juridique aussi, comment recruter. Mais après, cette partie comment manager réellement des personnalités, des hommes et des femmes qui sont complètement différents, pas plus que ça. Je pense qu'après, c'est beaucoup du savoir-être, beaucoup d'écoute, d'observation. Moi, j'ai passé quasiment un an où il y a des choses que j'ai pas forcément appliquées de suite. J'ai d'abord voulu voir qu'est-ce qu'ils attendaient de moi, comment j'allais m'adapter à ces personnes-là. Donc j'ai mis un peu de temps. Et là, il y a des choses qui se décantent, où on comprend, où d'accord, on s'adapte. Et voilà.
Pour avoir été manager, je sais que la fatigue parfois et le stress inhérent à cette fonction peut nous faire perdre un petit peu cette capacité d'écoute de l'autre. Comment on combat ça au quotidien quand on est fatigué? Comment tu gères ça au quotidien?
Après, moi, je suis passionnée de sport, donc...
Ça défoule.
Oui, c'est voilà, le sport. Ça passe beaucoup par le sport et le travail de respiration, un peu de yoga.
De méditation, même en réunion, quand ça chauffe.
Alors non, je ne me le permets pas que ça... Je fais toujours en sorte quand même que, vu que je n'aime pas le conflit, ouais. Vous l'aurez compris, ouais. Je fais en sorte que ça n'arrive pas, donc, et que ça soit plutôt même constructif, quoi. Et si ça n'allait pas... Clairement, je stoppe de suite, je laisse pas la place à ça. Pas en réunion, pas quand il y a tout le monde. Voilà.
Ouais, jamais de ciblage individuel, non. Et jamais de réaction à chaud.
Non.
C'est peut-être deux outils qu'on pourrait confier aussi aux jeunes managers.
Ouais. J'ai déjà eu une très mauvaise expérience où je me suis fait crier dessus au téléphone. Heureusement que c'était au téléphone d'ailleurs, je pense que ça aurait été plus impressionnant en face à face. Je suis restée complètement muette. Déjà parce que ça m'a choquée, parce que je pense que c'était la première fois qu'on me parlait comme ça. Et tout ce que j'ai su dire, c'est bon, on va en terminer là et on se rappellera quand tu seras calmée. Et j'ai raccroché. Donc je pense qu'il y a quelques années en arrière, on m'aurait raconté que ça serait passé comme ça. Moi, je me dis, mais non, j'aurais moi aussi, je serais montée au créneau, je me serais énervée. Et en fait, pas du tout. Et je pense que j'ai bien fait, j'ai eu raison, et demain, j'espère que ça ne m'arrivera pas de nouveau, mais si ça devait arriver, je réagirai de la même façon. Ouais.
Ce qui peut être difficile pour une oratrice ou une manageuse, ou des managers, hommes ou femmes, c'est de ne pas prendre les choses personnellement. Je prends la parole en public, je peux me mettre tout d'un coup à interpréter, selon le froncement de sourcils de mon public, telle ou telle émotion, alors que parfois pas du tout, tout va bien. Je suis manager ou manageuse et je peux me confronter à la situation que tu viens de décrire. Comment tu fais pour te détacher émotionnellement, ne pas prendre les choses personnellement dans ton activité commerciale d'accompagnatrice de commerciaux?
Ça vient un petit peu avec le temps, l'expérience, mais malgré tout, on prend quand même un coup. Après, c'est juste, faut l'accepter, ok, d'accord, ça fait mal. Maintenant, on connaît la personne, on sait comment elle est. Bon, faut pas le prendre pour nous de toute façon. Ça reste un métier et faut être persuadé, faut être sûr de soi. Je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, donc à partir de là, tout va bien.
Ouais, la question de la confiance en soi, j'ai beaucoup de clients souvent qui me posent la question. Quelle définition tu donnerais de la confiance en soi dans ton métier? C'est quoi? C'est de se dire un bon vieux mantra tous les matins, ou c'est au contraire pratiquer, en revenir à des choses techniques précises? Qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes commerciaux peut-être qui nous écoutent et qui en ce moment ont un peu le menton baissé, perdent confiance dans leur quotidien?
Pour gagner en confiance en soi, c'est faut oser faire certaines choses qu'on n'oserait pas faire. Mais sur commencer peut-être par des petites choses qui peuvent être un peu anodines, pas forcément liées d'ailleurs au travail. Ça peut être dans la vie personnelle, ça peut être au sport, ça peut. Et plus on ose faire, plus notre confiance en soi elle grandit. Et il faut se dire que notre place elle est là. Si on est là, c'est pas pour rien. C'est qu'on a des compétences, qu'on a montré qu'on savait faire et qu'on a on a déjà réussi. On a montré sur les résultats, sur le papier. Donc voilà. Et après, oui, oser au quotidien faire des choses pour montrer.
Ouais, tu parles finalement d'un processus par palier, il y a les étapes par étapes, mm-hmm. et célébrer les victoires mm-hmm. intermédiaires. Ouais. On peut faire une vraie passerelle avec mon activité, où un jeune, par exemple, va se mettre à parler devant un groupe de 4 personnes, mm-hmm. il va prendre confiance, et puis après il va être exposé peut-être à 15 personnes, et puis à travers ça, il va renforcer sa technique, mm-hmm. et donc sur le chemin, assimiler de la compétence. Oui. Je dis souvent, et d'ailleurs la formule n'est pas de moi, je me plais à la répéter, mais la confiance en soi, c'est de la compétence assimilée, finalement. C'est de la technique assimilée. Mm-hmm. Ça se décrète pas, c'est pas un interrupteur qu'on décide à ses 19 ans d'allumer jusqu'à... Il est question de la réforme des retraites, donc jusqu'à peut-être ses 64 ans.
C'est ça, mais c'est pour ça qu'il faut oser donc chaque jour pour gravir ses marches et atteindre cette confiance en soi. Ouais.
Tes conseils sont plutôt très, très parlants, je trouve, et plutôt très pragmatiques. On voit bien là que t'as l'amour du terrain et que t'es dans le concret, parce qu'effectivement, on entend assez peu ce conseil-là, notamment dans certains manuels de développement personnel, on est beaucoup dans les injonctions, mais peu parfois dans le pragmatisme. Là, finalement, la confiance, ça se construit par paliers. Mmh. Ok. Mmh. J'aime beaucoup. Ce sera une autre formule à retenir de ce podcast. Est-ce qu'il y a maintenant un morceau d'éloquence, puisqu'il s'agit aussi d'un podcast lié à la prise de parole, donc notamment à travers ton beau métier, un morceau d'éloquence que tu aimes? Tu parlais de coaching sportif, en tout cas de sport, de handball. Mmh. À une époque, personnellement, moi, j'aimais bien aller voir sur YouTube des discours de coach, où c'était le genre de choses qui m'animaient. Est-ce que toi, il y a une conférence, un discours historique ou un discours sportif qui t'a particulièrement marqué et pourquoi?
Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'était vraiment ce coach mental, puisqu'on n'a que 18 ans, on n'a pas conscience, on ne s'intéresse pas trop justement à cette partie mentale. Hein. On est plus dans la compétence physique, hein, d'être capable de. Et là, ça a été vraiment révélateur et je l'ai gardé. Se dire, ben, quand on a raté, oui, on a raté, mais on oublie. Il faut l'oublier et passer à autre chose et recommencer, en fait. Et ça, je l'ai gardé parce que si on s'attarde... On est d'accord hein, que l'erreur fait partie de la réussite, mais si on s'attarde trop sur ces erreurs-là, se dire que j'ai raté, je pense qu'on finit par s'apitoyer sur son sort et c'est pas bon. Donc, faut très vite tourner la page.
La capacité à faire table rase et à créer un jour nouveau, quoi.
Oui, oui.
À créer un jour nouveau. Ça me fait penser à un discours, je ne sais pas si tu connais Pascal Duprat, un coach de foot qui avait sauvé le TFC, enfin sauvé, lui et ses joueurs quand même, hein, le mérite revient aussi un peu aux joueurs. Ils avaient sauvé le TFC de le Toulouse Football Club de la relégation et son discours avait été relayé sur les réseaux sociaux et vraiment il harangue son équipe, c'est assez impressionnant. Mmh. Tu connais cette vidéo?
Non.
Non? Moi je te laisserai ou je laisserai aux auditeurs le soin de taper sur YouTube Pascal Duprat, Dupraz. Et on peut voir sa causerie, je crois que c'était Canal+ qui avait filmé ça, c'est assez impressionnant.
D'accord.
Il y a les murs qui vibrent, et c'est assez... Ouais. Je crois même qu'il y a des larmes chez les joueurs, on voit des mecs costauds fondant là.
C'est beau, ça d'arriver à transmettre ça, c'est magnifique.
Ouais. Ouais, en fait, il a un discours, il a fait un montage, il prend des images des proches des joueurs, et il dit qu'en gros... Il se joue plus qu'un simple match de football, quoi. Il va vraiment les chercher aux tripes et il arrive à trouver ce levier sensible qu'ils arriveront à rendre fiers finalement à la fois les Toulousains mais aussi les membres de leur famille. Donc il a trouvé le levier de persuasion un peu pour les galvaniser. Alors est-ce que c'est ça qui a justifié le sauvetage? Peut-être pas que, il faut quand même jouer après. Mais c'est un beau moment d'éloquence qui m'avait... à l'époque aussi marqué. Il va être temps maintenant d'aborder une citation ou une punchline qui t'accompagne au quotidien. Est-ce que c'est le cas, Morgane? Et si oui, c'est quoi?
Ah oui, j'ai une phrase. Alors malheureusement, elle vient pas de moi. Elle vient de mon prédécesseur, mon premier manager chez Wurt. Je sais pas si elle venait de lui ou si c'était encore quelqu'un d'autre avant lui, mais en tout cas que j'ai gardée parce que elle correspond tout à fait à notre métier et pour garder cette banane. Alors, pardon, pour faut faire une faute d'orthographe, hein, faut mal l'écrire, mais c'est la règle des 7C. C'est con, mais c'est comme ça, comment qu'on fait ? Parce que parfois, il y a des décisions qui sont prises, bah, qui ne nous correspondent pas, qui ne nous plaisent pas, et voilà, qui dans notre quotidien ne vont pas forcément nous servir, mais on nous demande de le faire. Donc maintenant, c'est l'accepter, encore une fois, et c'est de se dire, bah, qu'est-ce qu'on en fait de cette décision-là ? Comment on peut faire pour la tourner à notre avantage, pour faire en sorte qu'elle nous fasse grandir, qu'elle nous fasse du business avec nos clients, etc. Donc c'est derrière trouver des solutions, quoi, tout simplement, et s'en accommoder. Voilà. Je n'accepte pas ou je ne comprends pas qu'on n'entende pas et qu'on reçoive mal une décision qui est donnée par notre entreprise, par nos dirigeants. Donc elle est donnée, on la prend et par contre on s'adapte autour si elle nous, même si elle nous...
Et on peut le rattacher. Alors, il y a deux choses qui me viennent à l'esprit quand tu dis ça. C'est la notion, ça renvoie un peu à l'arbitre, au handball ou au football. Il prend une décision, on n'est pas d'accord, mais c'est comme ça.
Oui.
Le match continue. Oui. Et ça va faire 40 minutes qu'on échange. Et en fil rouge, on a un peu cette idée d'être capable de faire table rase et de passer à autre chose assez vite. Donc finalement, ça rejoint aussi cette notion-là.
Oui, moi je trouve que je suis pas, pourtant je suis pas passée par l'armée, mais pour moi, quand voilà, il y a une décision qui est prise, et notamment le handball, hein, on le voit bien, hein, les joueurs, ça ne discute pas, hein, ça siffle, ben c'est d'accord, paf, on pose le ballon par terre et on se remet à sa place. Et ça, je trouve ça, c'est une belle éducation, ça.
Eh bien, on va garder ça en conclusion. Je trouve que c'est une belle note de conclusion, la capacité à faire table rase du passé pour pouvoir se projeter sur un jour nouveau, donc notamment dans les métiers, les métiers de vente, de négociation et d'accompagnement. Merci beaucoup, Morgane, pour ces échanges. J'ai été assez impressionné par le pragmatisme de tes outils et le caractère assez concret et applicable de cela. J'ai pris un immense plaisir à te recevoir aujourd'hui, puis ben, je te souhaite une excellente continuation.
Merci beaucoup.
Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le faire savoir en lui laissant une belle note ou en le partageant et le commentant sur les réseaux sociaux. Que ces conseils de communication puissent vous être utiles et à vos proches, je m'appelle David Jadar et vous pouvez me retrouver sur mon site internet lesorales.fr